CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce mag du pays Midi-Quercy comme tous les lundis depuis une bonne dizaine d'années. Dans la deuxième partie de ce mag, on recevra la chargée de communication du PETER, Corinne Trévisan, à propos de ce que nous réserve cette nouvelle année à venir. Mais avant ça, on parle contrats territoriaux.
CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
La première partie de ce mag du pays Midi-Quercy à propos d'un comité de pilotage qui s'est tenu le 15 décembre dernier autour du suivi du contrat territorial de relance et de transition écologique, c'est le CRTE, ainsi que du contrat territorial Occitanie, le CTO du pays Midi-Quercy. C'est un comité qui a permis de faire un point d'avancement sur ces deux dispositifs territoriaux qui sont tous les deux coordonnés par le PETER du pays Midi-Quercy pour le compte de l'ensemble du territoire. Et c'est Philippe Darbois, le directeur du pays Midi-Quercy, qui va tout nous expliquer. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors c'est une continuité. On va faire un petit bilan de ce qui s'est déjà passé dans le cadre de ce CRTE et puis des évolutions prévues en 2024. Avant ça, une petite définition, projet d'investissement sur le territoire. Alors on sait que pour l'État, pour la région, pour le département, pour tout le monde, c'est des objectifs de transition écologique qui sont soulignés en ce moment. C'est déjà le fer de lance du pays Midi-Quercy, mais ce n'est pas que ce sujet. Investissement sur le territoire, on parle de quoi ?
Eh bien, en fait, ces deux contrats permettent d'accompagner les projets en effet d'investissement des communes, des comités de communes, qui vont renforcer l'attractivité durable du territoire, mais également l'inscrire dans une transition écologique. Et les deux sont très liés, puisque mieux on intégrera la transition écologique, plus le territoire deviendra attractif et soutenable par rapport aux enjeux climatiques notamment. Donc ça, c'est une approche générale. Donc concrètement, mais c'est des projets qui vont permettre de faire des investissements de cadre de vie, donc d'aménagement de bourg, mais qui vont intégrer donc cette transition écologique, des aménagements de bâtiments pour du logement, pour des salles mutualisées, mais qui à chaque fois vont passer sous le prisme de la transition énergétique ou écologique en fonction du type de projet.
Il y en a un sacré paquet, une centaine de projets 2022-2023, 69 opérations qui ont été soutenues directement par la région, 2,3 millions d'euros d'aide régionale. Conseil départemental, c'est 68 opérations qui ont été soutenues pour 4,1 millions d'euros d'aide départementale. On parle de quoi comme projet ? Peut-être quelques exemples ?
Alors c'est vrai que on est un territoire quand même de 49 communes, avec 3 communautés de communes, donc quand vous agrégez tout ça, mais sur une année où on est en plus en milieu de mandat, où maintenant là les élus ont bien pris possession des différents outils et donc sont en train de faire vraiment les projets de leur mandat, en effet cette année 2023 on a à peu près une cinquantaine de projets que sur l'année 2023 qui ont été présentés, alors que l'an dernier on en avait une trentaine, donc on voit, vous voyez, l'évolution. Alors pour citer des exemples de projets, il y a notamment un projet important sur Caussade d'aménagement des promenades, qui est le grand centre-ville de Caussade, hein, donc les travaux commencent tout juste. Ça va être le projet du mandat, réparti sur 3 tranches, on est sur plusieurs millions d'euros de projets. Un autre projet aussi qui est très exemplaire en matière énergétique, c'est le projet d'Albias, l'école cantine d'Albias, qui installe un système de chauffage en géothermie, qui n'est pas courant sur le territoire, hein, donc c'est pour ça qu'on le signale, et qui permet ainsi d'avoir une efficacité énergétique vraiment exemplaire, quoi. Autre projet qui lui est déjà réalisé, que vous pouvez voir, et qui est la seule piste cyclable vraiment en site propre, c'est-à-dire séparée de la route, c'est à Négropolis, par exemple. La route, quand vous êtes à Négropolis, vous allez vers Baïsac, vous avez une piste cyclable pendant presque 1 km, qui est vraiment exemplaire en termes d'aménagement et de respect des normes et des sécurités pour le vélo, sachant que en parallèle, vous savez, on en a parlé déjà précédemment dans d'autres émissions, on est en train d'élaborer un schéma directeur vélo à l'échelle du territoire, et il y a eu déjà pas mal d'actions sur le cyclotourisme, donc tout ça est cohérent aussi par rapport à cette attractivité que je disais au début, durable du territoire par des aménagements qui permettent d'avoir une mobilité alternative, moins polluante et meilleure pour la santé. Je peux vous citer encore un autre projet, peut-être, si vous le souhaitez. Il y a par exemple un projet à Kerriech d'aménagement d'un bâtiment existant ancien en deux logements locatifs. Donc ça aussi, c'est important dans ces petites communes qui ont une véritable attractivité, puisque Kerriech, tout le monde connaît, hein, c'est un village magnifique. Mais s'il n'y a pas de logement et d'habitation proposée, ben, personne ne peut venir s'installer. Et là, donc, la commune a souhaité carrément prendre elle-même cette fonction et en aménageant un bâtiment et en créant donc du locatif communal qu'elle va pouvoir proposer dans de bonnes conditions, puisque les travaux vont vraiment être faits dans les règles de l'art, avec une isolation exemplaire et aussi une qualité patrimoniale vraiment remarquable.
70 projets en deux ans, projets d'investissement sur le territoire. Est-ce que vous avez, à l'issue donc, de ce premier comité de pilotage commun, de suivi de ces contrats territoriaux de relance et de transition écologique et du contrat territorial Occitanie, est-ce que vous avez pu identifier des leviers, des freins particuliers, peut-être une évolution pour 2024 ?
Alors, bon, en tout cas, ce qui est remarquable, c'est qu'on ait pu enfin faire un suivi commun, alors ça peut paraître un peu d'attambouille, mais de ces deux dispositifs, un qui est signé avec l'État, donc le CRTE, qui devient d'ailleurs, c'est significatif, le R devient contrat de réussite de la transition écologique et non plus contrat de relance, comme on l'a en 2021, puisque en 2021, c'était justement, suite à la crise Covid, il y avait un souhait de vraiment soutenir la relance et tout type de projet. Là, maintenant, on est vraiment sur soutenir des projets qui sont cohérents avec la transition écologique en priorité. Et le CTO, qui est donc un contrat avec la région pour une période de 2022-2028, qui, eux, doivent respecter aussi le pacte vert que la région a élaboré il y a 2-3 ans et qui, donc, s'oriente également dans la transition verte. Alors, les évolutions, elles sont essentiellement d'encore plus, donc c'est vrai que je me répète un peu, mais c'est une réalité, encore plus intégrée dans les projets proposés par les collectivités, les objectifs de la transition écologique. Donc, par exemple, lorsque vous avez un projet d'espace public, l'aménagement d'une école, bien maintenant, il va être forcément souhaité que la cour d'école soit désimperméabilisée, donc c'est-à-dire avec des espaces verts et au maximum que l'eau puisse pénétrer dans le sol. Autre type d'objectifs et de considérations à prendre en compte, dans les aménagements urbains, des communes, des bourgs et tout ça, il est indispensable de vraiment se poser la question de la consommation foncière, puisqu'il y a à terme des objectifs de zéro artificialisation nette des sols qui sont en 2050 prévus, c'est-à-dire de ne plus consommer et artificialiser des sols pour accueillir de la population. Donc il faut au maximum optimiser ce qu'on a déjà, c'est-à-dire densifier dans les bourgs les logements. C'est parfois créer des dents creuses, aménager des dents creuses dans les centres-bourgs, recréer des aménagements publics, pourquoi pas en rasant certains bâtiments qui ne sont plus habités pour rendre un cadre de vie plus attractif. Tout cela, c'est ce qu'on appelle des aménagements d'urbanisme durable. Et maintenant, voilà, lorsqu'une collectivité présente un projet, et notamment de construction d'un nouveau bâtiment, on va d'abord lui demander si vous avez bien regardé, si vous n'avez pas un bâtiment existant qui pourrait faire l'affaire. Et là, il y a eu un exemple récemment qui est assez exemplaire, qui est à Molière, puisqu'il y a eu un centre de santé qui a été réalisé à Molière. Et il a été fait sur une friche d'un bâtiment existant, qui était un ancien commerce, une entreprise motoculture, et qui était en plus une verrue, parce que c'était un bâtiment qui n'était plus utilisé à l'entrée du bourg. Et bien la collectivité a préféré rénover ce bâtiment plutôt que de construire, comme il se fait par ailleurs, un bâtiment un peu excentré, avec un grand parking peut-être, mais qui consomme de l'espace inutilement, quoi.
Ce sont les collectivités qui présentent au PMI d'Icercy leur projet afin qu'ils soient validés qu'ils puissent rentrer dans ces différents contrats, donc soit avec l'État, soit avec la région. Ce sont donc uniquement les collectivités qui peuvent porter ces projets.
Alors, c'est essentiellement les collectivités, mais il peut y avoir aussi des entreprises, notamment sur le contrat avec la région, qui peuvent être soutenues, parce que la région a une politique d'accompagnement de l'économie, notamment l'économie responsable. Et donc nous, dans le CTO, on a notamment fait une fiche mesure sur accompagner un développement économique responsable, avec notamment le souhait d'accompagner des projets dans le champ de l'économie circulaire, c'est-à-dire des projets qui vont réutiliser des matériaux, réutiliser des ressources pour les recycler ou les remettre dans le circuit et ainsi éviter du gaspillage et de la consommation de ressources. Donc un projet un peu dans cette nature, c'est celui qui existe déjà depuis quelques années à Quélus, hein, du Fab Lab, qui met en place justement des ateliers de réemploi, de réutilisation. Vous avez notamment aussi les apprentis d'Auteuil à Caussade, qui est une structure un peu récente sur Caussade, qui fait des chantiers d'insertion et notamment de reconditionnement de vélos. Donc vous pouvez leur amener des vieux vélos que vous avez dans les garages et ils vous les reconditionnent et les remettent en vente à un prix tout à fait accessible. Et ainsi, ça permet de développer l'usage du vélo à un moindre coût.
C'était le 15 décembre dernier le premier comité de pilotage commun de suivi de ces contrats territoriaux. C'était qui ce comité? Qui fait partie de qui est composé ce comité?
Alors ce comité, il est composé bien déjà des collectivités locales du territoire Mini-Quercy. Donc il y a bien sûr le PETR, représenté notamment par son président, mais aussi des membres du bureau. Donc le président, M. Calmette, et 11 membres du bureau qui sont issus les trois communautés de communes du territoire. Ensuite, il y a donc les partenaires financiers, qui sont donc l'État. Donc là, en l'occurrence, on a eu le plaisir d'accueillir la nouvelle secrétaire générale de préfecture, Madame Darac. Enfin, la nouvelle, ça fait quelques semaines maintenant. Et au niveau de la région, nous avons comme référent le conseiller régional, Monsieur Portolès, Rodolphe, qui nous suit depuis des années sur ses contrats avec la région. Ensuite, nous avons le département qui est co-signataire de ces contrats. Et là, donc, nous avions plusieurs représentants du département. Et ensuite, nous avons aussi comme partenaire important l'ADEME, qui est le bras armé de l'État pour la transition énergétique, avec lequel on a plusieurs contrats d'ailleurs, qui permettent de financer l'animation sur la transition énergétique, sur l'économie circulaire. Et ensuite, d'autres partenaires comme la Banque des Territoires, comme l'Agence de l'eau, le syndicat départemental d'énergie, le SDE, le syndicat départemental des déchets ménagers, voilà, d'autres partenaires qui, à un moment donné, permettent déjà de présenter des projets ou d'accompagner les collectivités dans leurs projets.
Des contrats territoriaux et des projets d'investissement donc sur le territoire du pays Midi-Quercy. On est avec Philippe Darbois, son directeur. Un grand merci, Philippe.
Bien, merci à vous et bonne continuation.
She dances while his father plays guitar. She's sudden and beautiful, and we all want something.
le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
On est de retour dans le MAG du pays Midi-Quercy. Le MAG du pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis, un partenariat CFM Keylus et le PETR. Le MAG du pays Midi-Quercy, c'est une nouvelle année encore. Et on est avec Corinne Trévisan, la chargée de communication du PETR. Bonjour Corinne.
Bonjour Lisa.
Ça fait combien de temps que ça court d'ailleurs, que tout le monde croit que le MAG de Keylus, c'est le MAG du pays Midi-Quercy, alors que c'est seulement le lundi?
Ouh, ça fait bien une bonne dizaine d'années que le pays Midi-Quercy travaille avec CFM sur ce MAG hebdomadaire.
Avec deux interviews par semaine, une moyenne de 80 sujets par an, si je ne dis pas trop de bêtises, autour des actualités du PETR avec des techniciens, des partenaires. C'est quoi le but, l'initiative?
Alors l'objectif de cette émission est toujours le même hein, depuis cette dizaine d'années, c'est de mettre en avant la dynamique locale qui est développée à la fois par le PETR du pays Midi-Quercy et ses partenaires, donc tout ce que le pays peut mettre en place, coordonner les actions de ses partenaires, tout ce qu'on a envie de valoriser auprès des habitants du pays Midi-Quercy, on le met en avant grâce à ce MAG. Et bien sûr, le fait que la radio CFM soit vraiment une radio locale qui travaille sur ce lien social avec les habitants du territoire, ben nous, c'est un vrai atout. Donc, on tient beaucoup à ce partenariat et à ce lien qu'on a noué depuis tant d'années pour mettre en avant toutes nos actions, les actions de nos partenaires et faire en sorte que ce soit diffusé auprès des habitants.
Et puis ça se passe tellement bien que ça fait des petits, hein, ce MAG du pays Midi-Quercy. Je pense notamment, par exemple, aux capsules du patrimoine, émission régulière et récurrente avec le service inventaire.
Oui, effectivement, on a la chance d'avoir un service d'inventaire du patrimoine en Midi-Quercy, donc qui travaille beaucoup, beaucoup sur le terrain et qui a énormément de données. Et pour les valoriser, donc le service inventaire a travaillé avec toi, Lisa, sur cette chronique qui s'appelle « Les capsules du patrimoine » et qui présente pendant une vingtaine de minutes un élément de leur travail actuel, que ce soit sur des techniques comme
l'endochronologie, j'ai appris un mot. La datation du bois dans les constructions. Voilà. On y parlait aussi réfection des enduits ou bien de peinture murale. On apprend plein de trucs dans cette émission, en particulier moi qui participe à l'animer les capsules du patrimoine. C'est le quatrième mercredi du mois, c'est à 19h et c'est rediffusé le dimanche qui suit à 20h. Les capsules du patrimoine, c'est avec le service inventaire du patrimoine, avec le réseau d'office de tourisme aussi. Il se passe plein de trucs pour mettre en valeur
les... Oui, on travaille depuis, pareil, plusieurs années avec le réseau des offices de tourisme du pays Midi-Quercy et nous leur avons ouvert un créneau juste avant les vacances et pendant les vacances pour qu'ils puissent mettre en avant les actualités à la fois qu'elles animent, mais aussi de tout le réseau touristique qu'elles peuvent animer également. Donc c'est un créneau dans le MAG du pays Midi-Quercy où les offices de tourisme prennent la parole.
On a aussi un focus sur le pays d'art et d'histoire.
Oui, ça également, depuis la labellisation du pays en tant que pays d'art et d'histoire. Nous avons une nouvelle chronique qui s'appelle « Les chroniques du pays d'art et d'histoire ». Et là aussi, c'est la mise en avant de toute l'animation qui est faite dans ce cadre-là, avec les visites guidées, les expositions, ce que font les partenaires qui sont engagés dans la démarche. C'est vraiment, le MAG du pays Midi-Quercy, c'est vraiment un outil de valorisation pour nous, à la fois de ce qu'on fait, mais bien sûr de montrer aussi qu'on agit avec tous les acteurs locaux et nos partenaires. Donc c'est un outil aussi de valorisation de toute cette coopération.
Autour du patrimoine, des animations, du tourisme, de l'économie, de l'éducation. Et puis, j'ai envie de dire que vous envoyez aussi le pays Midi-Quercy, dans le cadre de ce MAG, vos techniciens, vos salariés directement au front avec un micro et un casque. Je pense notamment au circuit court. Bonjour.
Oui, exactement. Nous avons notre collègue Marie-Agnès Brandy qui parcourt les différents producteurs, fermes du territoire qui sont engagés dans la démarche produit en Midi-Quartier et qui va les interviewer directement avec son matériel, micro, enregistreur et qui va faire son petit reportage directement chez eux parce que c'est vrai que c'est un public qui est difficile de détacher de son travail pour venir en studio. Donc, on a fait plus simple, c'est elle qui se déplace. Donc, Marie a aussi sa petite casquette de reporter. voilà.
Et vous m'avez, moi, envoyé dans les vignes. C'était il y a 2 ans, je crois, pour un projet un petit peu plus d'ampleur. Là, c'était radio et vidéo, peut-être à suivre. C'était.
Exactement. Le vignoble se raconte. C'était dans le cadre d'un projet de coopération avec le Quercy Blanc, donc nos voisins du Lot, sur lequel on retrouve le vignoble du Quercy avec tous ses vignerons. Et depuis qu'il est labellisé vignoble et découverte, voilà, nous travaillons avec eux sur la valorisation de tous les acteurs de ce label et les vignerons en premier, évidemment. Donc l'objectif de cette action, c'était de t'envoyer, Lisa, au front également pour que tu puisses faire des reportages et des portraits de ces hommes et femmes qui font vivre le vignoble du Quercy. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. On a encore tous les podcasts en ligne sur le site de CFM Radio. Et vous pouvez les découvrir. Donc c'est 15 portraits qui montrent bien le côté humain et vous pouvez vraiment mettre un visage sur ces professionnels qui font vivre le vignoble du Quercy.
Moi je me suis bien amusée en tout cas. Le MAC du PMI du Quercy c'est tous les lundis avec des interviews, des témoignages, des reportages sur ce qui fait le territoire du PMI du Quercy. On continue comme ça, on ne change rien, Corinne?
Ah non, on ne change rien, on continue.
La semaine prochaine, dans ce MAC, ce sera les vœux du président du PETR du PMI du Quercy pour tout de suite une très bonne année à toi, Corinne. Et puis on se retrouve très bientôt.
Bonne année, Lisa, à bientôt.
Le MAC du PMI Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi. Rediffusion à 17h et à 21h. Et en podcast sur le site cfmradio.fr.